France Inter.
Doha,
Harare,
Jérusalem,
Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul,
Washington, São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Corée du Sud que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir à la rencontre d'une femme qui est morte récemment. Elle avait 93 ans, celle-là, mais surtout à la rencontre de la cause qu'elle défend. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
En Corée, Frédéric, pour France Inter et pour RFI, la femme dont vous voulez nous parler s'appelle Kim Bok-dong. Sa mort, fin janvier, a suscité beaucoup d'émotions. Elle a, dès l'âge de 14 ans, était forcée à travailler dans les bordels de l'armée japonaise. Elle a porté la cause de la défense des femmes comme elle toute sa vie. 200 000 Coréennes utilisées, maltraitées, violées. Et cette affaire empoisonne encore les relations entre les deux pays. C'est ça l'histoire que vous allez nous raconter avec l'une des 23 dernières survivantes de ces bordels japonais, Frédéric.
Oui, elle s'appelle Lee Hyok-sun et elle vit dans la Maison du Partage. C'est un refuge dans la banlieue de Séoul, tenu par une association. La rencontrer a été difficile, elle a 92 ans et elle est souvent malade.
Bonjour, comment allez-vous? La dernière fois, vous étiez très malade.
Ça va mieux, je mange alors ça va.
Lee Hyok-sun est née dans une famille très pauvre du sud de la Corée quand le pays était une colonie japonaise. Pour avoir une bouche en moins à nourrir, ses parents l'envoient encore enfant travailler comme bonne dans une auberge. Et à l'âge de 15 ans, elle est vendue par les tenanciers.
C'est arrivé quand j'avais 15 ans. Je revenais des courses, j'étais dans la rue quand soudain des hommes ont bloqué le chemin et m'ont attrapé. Ils portaient des vêtements civils et je ne sais pas s'ils étaient policiers ou soldats. Ils m'ont juste demandé « Où vas-tu ?» et ils m'ont entraîné de force. C'est comme ça que j'ai été enlevée. On m'a mis dans un train pour Yami en Chine, dans la province de Yanbian.
Et c'est là, Frédéric, en Mandchourie, alors sous l'occupation japonaise, que la jeune fille est enrôlée de force dans une maison close de l'armée impériale.
Oui, avec d'autres jeunes coréennes, certaines vendues par leur famille pour régler des dettes, d'autres sont attirées par de fausses promesses d'emploi. Dans sa biographie parue sous forme de bande dessinée, Lee Hyok-sun raconte l'enfer de cette maison close. Les viols quotidiens, les passages à tabac, les soldats qui attendent leur tour dehors, les visites régulières par des médecins militaires. Elle raconte son premier viol par un groupe de soldats. Les week-ends, nous devions en recevoir une trentaine, dit-elle. Malade de la syphilis, elle est soignée aux vapeurs de mercure, un traitement qui la rend stérile.
C'est comme ça que j'ai survécu jour après jour. Cela a duré très longtemps. Mais ces sales japonais ne nous ont toujours pas fait d'excuses. Ils essaient d'échapper à leurs responsabilités et ils disent qu'ils n'ont pas organisé ce trafic sexuel. Ils disent que je suis allée en Chine de mon plein gré pour gagner de l'argent et ils prétendent que tout ce que nous disons n'est que mensonge.
Et son calvaire dure jusqu'à la fin de la guerre. En 1947, elle fait quoi ensuite ?
Eh bien, comme de nombreuses victimes, Lee Hyok-sun se retrouve sans un sou, elle a aussi honte, et elle reste en Chine pendant 50 ans. Elle se marie et adopte les deux enfants de son époux. Ce n'est qu'en 1996 qu'elle retourne enfin en Corée et trouve le courage de raconter publiquement ce qu'elle a vécu. Mais elle se voit alors rejetée par ses frères et sœurs. La bédéiste franco-coréenne Keum Sok Jeonri Kim a raconté son histoire dans un ouvrage intitulé « Mauvaises herbes ». Elle explique pourquoi ses victimes sont souvent rejetées par leur famille.
Parce qu'en fait, en Corée, on les a considérés comme prostituées, alors que c'était des victimes. Madame Lee Hyok-sun, lorsqu'elle m'a raconté son histoire, une des plus de souffrances qu'elle a vécues, c'était au bout de 55 ans, lorsqu'elle est rentrée en Corée, lorsqu'elle a retrouvé sa famille tant qu'elle a souhaité de retrouver, en fait, qu'elle a été rejetée aussi, rejetée. Ah, ça, c'était vraiment horrible. C'est là qu'elle avait les larmes aux yeux. Et ça m'a fait très, très mal au cœur aussi.
« Lee Hock-sun est devenue une militante et malgré son âge, elle participe régulièrement aux manifestations organisées tous les mercredis depuis 25 ans devant l'ambassade du Japon à Séoul. Des manifestations organisées par les associations de victimes qui demandent à Tokyo de reconnaître ses responsabilités historiques et de présenter des excuses.
Et pourtant, Frédéric, il y a 3 ans, le ministre japonais des Affaires étrangères a bien offert ses plus sincères excuses et regrets aux victimes alors.
Oui, tout à fait. En novembre 2015, Corée du Sud et Japon ont signé un accord sur le sujet. Tokyo présente alors des excuses et finance une fondation d'aide aux victimes. Mais ces gestes sont jugés peu sincères par les victimes qui rappellent que le gouvernement japonais, pris par la tentation négationniste, cherche à supprimer la question des femmes de réconfort de ses livres scolaires. Cho Shiryon est chercheur au Centre pour la vérité historique et la justice à Séoul.
Pour résoudre le problème des femmes de réconfort, il faut d'abord établir le fait historique. Ensuite, si ces faits montrent que certaines personnes ont commis des crimes, ces personnes doivent être poursuivies en justice et les responsables doivent être punis. Troisième point, les victimes doivent recevoir des réparations et des indemnités. Et enfin, pour empêcher ces mêmes crimes de se reproduire, il faut les enseigner en cours d'histoire. C'est un fait historique, et c'est là la solution du problème.
Voilà, c'est pour cette raison que les anciennes victimes, comme Lee Hock-sun que vous avez entendu, continuent leur combat, malgré donc ces excuses de 2015.
Oui, à la mort de son mari, il y a 19 ans, Lee Hock-sun est revenue vivre en Corée. Et quand sa santé lui permet, elle continue d'aller manifester les mercredis devant l'ambassade du Japon.
J'aimerais arrêter d'y aller, mais le monde entier doit savoir, doit connaître notre histoire. Nous ne mentons pas. Le monde doit savoir pour que cela ne puisse jamais se reproduire. Moi, je suis fatiguée. Je ne peux plus parler très longtemps. Physiquement et psychologiquement, je suis épuisée. Mais même si cela est difficile, je dois le faire.
Frédéric Ojardias pour ce reportage avec nous depuis Séoul. Merci beaucoup Frédéric, à très vite.